Ces derniers temps, beaucoup de choses se sont passées dans beaucoup de familles. Problèmes de santé, problèmes de travail, problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver les mots appropriés qui vont dans le contexte. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que nous pouvons mentir en disant « tout va bien aller » ? Vous savez, la phrase que tout le monde attend, c'est « ça va aller ». Ça va aller, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours le mot approprié. Et dans l'Écriture, j'essaie de réfléchir à savoir quel pourrait être le message que le Seigneur nous dirait dans le contexte actuel. Et pour ça, j'ai trouvé dans le prophète Malachi. Le prophète Malachi, c'est le tout dernier avant. Si vous allez à Matthieu, c'est juste le prophète d'avant, le dernier prophète de l'Écriture. Juste la dernière prophétie avant la venue de Jésus. Et je vous invite, ce matin, on va réfléchir, je crois que le temps est bien passé, aux 5 premiers versets. Pardon, chapitre 1, oui, voilà, j'ai oublié. Malachi, chapitre 1. En italien, on dirait Malachi. Malachi, prophète italien. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Ésaïe n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel ? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait des montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi, par l'Éternel des armées qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Jusque-là la lecture. Malachi a un message difficile. Son nom à Malachi, c'est messager de l'Éternel. Nous sommes des messagers de l'Éternel. Dans ce dernier message de l'Ancien Testament, le dernier porteur de la parole divine à Israël avant la venue de son Messie se place dans le contexte d'un rejet dont fut l'objet et de cette ruine de l'homme, en particulier du peuple de Dieu qui avait, pourtant que Dieu avait mis à part. Dieu s'adresse à son peuple sur le pied de sa responsabilité. C'est-à-dire, il appelle le peuple, il dit « Vous avez des responsabilités ». Et la première chose que Malachi va faire, c'est de l'appeler à la repentance et à l'évaluation de ses voies avant le jour de vengeance de la manifestation de la gloire du Messie. Ce que j'explique par ici, la façon dont Malachi s'adresse, il leur dit, vous avez des responsabilités et je vous préviens, le jour de jugement vient bientôt. Et tous, on a déjà entendu ça, tous, on a déjà lu les prophéties, tous, on a lu des livres disant que, voilà, Jésus revenait bientôt, de se préparer. Et à chaque fois qu'on entend ça, on déplace le curseur, on dit, oui, mais c'est pas pour aujourd'hui. On a le temps. Voire j'y penserai. Et on enfuit quelque part le problème. Pourtant, si on regarde au tableau, j'ai marqué là à la photographie de ce que Malachi voyait, un triste tableau de la ruine morale, de l'éloignement de Dieu, de l'insensibilité, de l'aveuglement du peuple qu'il avait comblé de ses bienfaits. Et là, je ne suis pas en train de dire que le peuple de Vigneux est insensible, aveugle. Mais je dis que parfois, dans nos difficultés, et je l'avoue même pour moi, des fois dans nos difficultés devant l'inconnu, devant l'attente qui se perdure, nous avons oublié quelque chose. Nous avons oublié tous les bienfaits de Dieu. Nous avons oublié que Dieu nous a aimés. et qu'il nous aime. Cette histoire a une grande importance pour nous car les traits du portrait de l'Esprit de Dieu est celui que Dieu veut que nous entendions aujourd'hui. Notre monde avance de plus en plus dans le rejet de Dieu. Notre monde, de plus en plus, ne veut plus entendre parler de Dieu. On essaye d'enlever de la vie sociale, de la vie locale, de la vie familiale, la parole de Dieu et l'annonce de la parole de Dieu. L'Épître aux Galates au chapitre 14 dit que nous sommes dans des siècles mauvais. Mauvais. Mais c'est mauvais si on regarde la moitié de la bouteille vide. C'est bon si on regarde la moitié de la bouteille pleine. La venue du Seigneur nous est présentée dans ce livre comme étant la fin prochaine des temps de la patience de Dieu. Elle est l'objet de l'attente, de l'espérance de son peuple. D'un côté, les temps mauvais où les hommes s'enfoncent de plus en plus. D'un autre côté, l'attente joyeuse, mais des fois difficile, du peuple de Dieu qui aspire à la délivrance et à rejoindre, j'ai marqué là, qui apportera du soleil. Aujourd'hui, on en a. Tandis que pour le peuple rebelle, viendra le jour comme un four embrasé. Voilà le décor. Un prophète qui annonce un message difficile, qui dit « Attention, préparez-vous, le temps de jugement avance, le temps de la patience arrive à sa fin. » Au milieu d'une profession sans vie, mûre par le rejet définitif de Dieu, il y a des croyants qui attendent le rassemblement des saints célestes autour de leur chef, Christ. D'autre part, il y a des hommes et des femmes qui ne considèrent même plus Dieu et qui, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans l'attente, effacent les bienfaits de Dieu. Effacent le fait que Dieu nous aime. Et vous avez vu l'introduction du texte, je vais y revenir tout à l'heure. Le monde se prépare à la réception de l'homme de péché qui s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Un homme va venir, il va se faire passer par Dieu, l'antéchrist. Je crois que ça sera une vraie personne. On essaye depuis bien des siècles, et je m'aventure ce matin, c'est ma pensée, qu'un jour un homme dirigera ce monde en se faisant passer par Dieu. Si je vais au ciel, vous me raconterez que ce n'était pas vrai si j'ai eu le temps. L'espérance du retour de Christ a été rappelée à l'Église par le Saint-Esprit qui a réveillé les vierges endormies. Matthieu chapitre 25 verset 6. En outre, la parole prophétique rend témoignage que Jésus revient bientôt. Le 22 mars 1977, c'est la première phrase de la Bible que j'ai pu lire et qui m'a accroché à Dieu. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. La chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver, frères et sœurs, après notre salut, c'est la rencontre du Seigneur Jésus. Ce retour de Thessaloniciens chapitre 1 versets 7 et 8 nous dit qu'elle sera révélée du ciel avec les anges de sa puissance en flammes de feu exerçant la vengeance contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile et contre notre Seigneur Jésus-Christ. On connaît les prophéties, on sait que les choses vont arriver. Mais que faisons-nous lorsque ça devient difficile? Comment réagissons-nous? Alors voilà, regardez le verset 2. Je vais essayer d'aller rapidement. Verset 2. La chose que Dieu nous rappelle, là, il dit « Je vous ai aimé. Je vous ai aimé. » Il commence par établir le fondement de ses pensées, toutes ses voies envers la nation, à savoir son amour. Gratuit, immérité. Gratuit et immérité. Donner de l'amour gratuitement. Apporter l'amour alors qu'en face de nous, il y a de la haine, du rejet, du jugement, de l'amertume, de la rancœur. Dieu dit, je vous ai aimé. Et c'est pas marqué dans le texte, gratuitement. Alors que vous étiez mes ennemis. Nous n'aimions pas Dieu quand il est mort à Golgotha, mes amis. Nous n'aimions pas Dieu lorsqu'il a été mis au tombeau. Nous étions ennemis. Nous aurions pu être avec tout ce peuple qui disait « crucifie-le ». S'il a sauvé les autres alors qu'il se sauve lui-même, on aurait pu... Vous imaginez dans cette foule crier ces choses ? En Malachie, Dieu commence à rappeler son amour pour son peuple. Et chaque jour, frères et sœurs, chaque jour, à chaque instant, lorsque des larmes coulent, lorsque nous ne comprenons pas les situations, lorsque finalement nous disons « Mais jusqu'à quand ?» La première phrase, la phrase qu'il faudrait s'inscrire un peu partout dans notre maison, dans nos voitures, sur nos lieux de travail, dans nos toilettes, si on y passe du temps. C'est cette phrase du Seigneur, cette phrase de Dieu qui dit « Je t'aime, je vous ai aimé. » Cet amour est éternel. Ne se donnera, elle nous donnera aucun repos. Dieu, il n'arrêtera pas de nous aimer. De nous aimer. Jusqu'à ce qu'il ait amené ceux qui sont les objets de sa réjouissance dans son intimité. Le prophète Sophonie, le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, on peut dire qu'un jour Dieu se reposera de son amour. Dieu se reposera de son amour. Ça ne veut pas dire, mes amis, qu'il arrêtera d'aimer, mais il se reposera, parce que là, il aura avec lui tout le peuple qu'il aime. Première chose donc, à ce peuple rebelle, à ce peuple qui a oublié, à ce peuple qui fait des choses de travers, il leur dit « Je vous ai aimé ». Et alors, la réponse, malheureusement, elle vient juste derrière. Et c'est souvent la réponse qu'on apporte lorsqu'on n'a pas compris les choses. La réponse qu'on jette instantanément. « Ah ouais, bah si tu m'as aimé, bah dis donc, si tu m'aimais pas, ça serait pire alors. » Et là, regardez le peuple. « En quoi est-ce que tu nous as aimés ?» Dégradation morale. Malgré le ministère passé du prophète Esdras, du prophète Néhémie, qui avait permis au peuple de rester, de rentrer. Insensibilité. Nos épreuves, nos difficultés, nos attentes nous insensibilisent, nous rendent hermétiques à l'amour de Dieu. Infranchissable. Tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, moi je te dis une chose, je souffre. Et c'est ce que le peuple dit. C'est ce que le peuple, tu ne peux pas comprendre. L'esprit de révolte, l'esprit d'indépendance, qui empêche de reconnaître l'amour et d'en profiter. De reconnaître l'amour et d'en profiter. L'épître de Jude nous parle de ceux qui murmurent, des murmurateurs, de ceux qui sans cesse disent « Oui, bah Dieu il m'aime, mais alors c'est compliqué. » Qui finissent, vous savez, quand on devient hermétique, quand on n'entend plus les messages, on devient dur. Et notre cœur devient insensible. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, parce que Dieu ne cesse pas de nous aimer. Dieu ne cesse pas de renouveler, l'Écriture dit, ses bénédictions chaque matin. Chaque matin. Elle ne se trouve pas simplement sur le chemin de l'obéissance. Les bénédictions de Dieu, je répète ce matin-là. Écoutez bien cette phrase parce qu'elle est importante. Les bénédictions ne se trouvent pas que sur le chemin de l'obéissance. Notre Dieu, sur tous les chemins où nous sommes, est toujours là pour nous aimer. Est toujours là pour nous dire, j'ai quelque chose de bien pour toi. Alors, il faut ouvrir nos yeux et nos cœurs. L'injustice, la méchanceté, c'est ce qui règne en dehors. L'obéissance ne s'est pas retirée. Notre amour pour Jésus, nous disons que nous aimons Jésus, que nous aimons Dieu, qu'il est notre priorité, qu'il est celui qu'on met toujours en premier. Mais dans l'épreuve, dans la difficulté, dans l'attente, il passe souvent le deuxième, le troisième, le quatrième. Le prophète Ézéchiel au chapitre 18, verset 25, plutôt que de questionner Dieu, plutôt que d'attaquer Dieu, le prophète Ézéchiel, il dit, ne sont-ce pas vos voies qui ne sont pas bien réglées? Dieu appelle à la repentance et à l'examen de nos voies. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que quelque part je ne vois plus l'amour de Dieu? Alors, une autre chose qu'il dit, un peu surprenante, il dit, j'ai haï Ésaü. La troisième chose, c'est trois. L'Éternel continue son plaidoyer avec son peuple. Il lui donne des preuves de la vérité de sa parole qui déclare son amour immuable pour Israël. Il remonte au commencement de l'histoire et nous fait considérer les deux fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Il s'agit de la grâce manifestée envers Jacob malgré sa misère et son caractère de supplanteur. Puis du jugement de Dieu sur l'état moral d'Ésaü, sur sa conduite, sur sa rébellion, sur son mépris des promesses divines, sur sa haine du peuple d'Israël, haine manifestée dans sa descendance qui attire contre elle le jugement. J'ai haï, j'ai porté un jugement sur lui. Jacob n'est pas l'homme parfait. Jacob n'est pas sans péché. Il a un drôle de caractère. Il a un drôle de caractère, n'est-ce pas? Qui nécessitait la discipline. Non pas la discipline qui tranche, mais la discipline qui corrige. Qui manifestait des caractères de sa foi, qui s'attache à sa parole, qui s'attache aux promesses, au désir de la pleine manifestation du privilège de connaître Dieu. Il nous arrive parfois, n'est-ce pas? Il nous arrive parfois que notre chair, cette vieille chair que... C'est Luther, je crois, ou Calvin, je ne sais plus, qui disait qu'il voulait le noyer, mais qu'il savait bien nager le bougre. Cette vieille chair, ce vieil homme humain qui nous ramène les vieilles habitudes, ça se manifeste encore, n'est-ce pas? Ça ressort encore chez le croyant, tout autant et des fois même pire que chez l'homme du monde. Mais si Satan réussit à nous entraîner dans ce chemin de sa volonté, le pire, c'est de nous plonger dans le bourbier du péché qui nous incite à oublier Dieu. À ne plus se rappeler que Dieu est là. Si nous sommes sur le mauvais chemin, lui, il est resté sur le bon chemin. Mais pour ça, il vient sortir de notre chemin. La discipline du Père, c'est de nous ramener chez les siens, d'aller chercher la brebis perdue. Et c'est ce qu'il a fait avec Jacob. Ésaü était plus noble que son frère, Mais ce qui déterminait son caractère moral aux yeux de Dieu, c'était son mépris face au Père et aux bénédictions. Nous ne pouvons pas abandonner, mes amis. Nous ne pouvons pas abandonner notre Dieu qui nous a aimés et qui nous aime encore au détriment de ce monde et au détriment de nos inquiétudes. Ésaü ne croit pas à des réalités invisibles. Le présent, les choses visibles avaient seules de la valeur. Je ne croirai que ce que je verrai. Pour des satisfactions passagères. Des moments qui ne durent pas une éternité, mais qui attirent en dehors. Elle provoque la colère de Dieu. Elle nous amène à nous séparer parfois de nos frères et sœurs. Les montagnes d'Ésaü du verset 3, ce lieu de la demeure de sa descendance, qui sont visitées par un jugement, ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Quand il nous dit « Je vous ai aimé, je vous aime », il nous dit « Si tu passes par l'épreuve, si tu passes par la difficulté, si tu passes dans l'attente, même 6 mois, 8 mois, 9 mois, sache que quelque chose d'extraordinaire t'attend. Qu'au bout du chemin, le bout, il y aura quelque chose de grand. » Mépris, profanation, mondanité, incrédulité, haine. Ce sont les critères du monde. Ce ne sont pas les nôtres. Dieu veut faire fondre toutes ces choses, les faire disparaître, pour nous donner, on l'a lu tout à l'heure à la Sainte-Seine, une espérance, une ville nouvelle où nous habiterons tous ensemble. Quant à Israël, malgré sa désobéissance qui a tiré sur lui la discipline, comme sur Jacob, les dons, l'appel divin sont quant à l'examen de notre situation de vie. Vos yeux verront et vous direz, l'Éternel sera magnifié. C'est difficile de croire, n'est-ce pas, quand on pleure. C'est difficile de voir les choses qui sont belles quand nous fermons les yeux. Ce que Dieu attend, c'est de nous révéler les bonnes choses. Et parfois, nous avons besoin d'attendre. Nous avons besoin de passer par le creuset. Si Dieu nous permet d'attendre, c'est qu'il nous en donne aussi les compétences. J'aimerais tirer 2 principes. Je vais essayer de le faire en 5 minutes. Quel que soit l'état pratique du peuple de Dieu, ses conseils, sa grâce demeurent fermes. Quel que soit notre état, mes amis, quelle que soit notre situation de vie, les conseils, la grâce, l'amour ne changent pas. Ainsi, en jugé par le triste tableau de l'état moral du peuple à ce moment de son histoire, le prophète Malachi veut le réveiller. La deuxième chose, j'abrège un peu. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas juger des pensées de Dieu à l'égard de son peuple par les circonstances dans lesquelles nous sommes. C'est-à-dire mesurer ce qui se passe dans notre vie au vu des circonstances en disant ben, « Si Dieu m'a réservé que des épreuves, alors comment il fait pour m'aimer ?» Si Dieu sait que nous avons besoin de passer par le creuset, si Dieu sait que nous avons besoin de passer par des grosses difficultés, une chose est sûre, c'est que Jésus nous a dit « Je serai avec vous tous les jours. » Et il nous rappelle instamment, après seconde après seconde, minute après minute, « Je vous aime. Je t'aime d'un amour incommensurable, immesurable. » Le mot, c'est la fin. Au bout, il y a Jésus. Au bout, il y a le rassemblement avec les élus. Au bout, il y a la délivrance. Au bout du tunnel, il y a le jour. À la fin, vos yeux verront. Deutéronome 8:16 dit, « À la fin, il voulait t'éprouver pour te faire du bien à la fin. » Notre foi est mise à l'épreuve, bien souvent. Notre foi Seigneur, tu es mon avocat, tu es mon juge, tu es mon soutien, tu es mon aide, tu es mon assistance. N'est-ce pas ? Et on pourrait prendre toute la liste de ce qu'il est. Mais nous perdons patience. Seigneur, bon avocat, mais je vais en prendre un autre. Seigneur, tu es un bon aide, mais enfin, tu ne m'assistes pas beaucoup. À la fin, les yeux verront. Sans comprendre toujours, sans comprendre ce qui nous arrive dans notre vie, la foi accepte et se soumet. Dans l'assurance que Dieu est un Dieu bon, tendre, qui dirige toutes nos circonstances. Il a la main sur le thermostat. Il sait que nous sommes dans la chaufferie, mais il a la main sur le thermostat pour sa gloire et pour notre bien. Souvent, nous avons répété ces paroles du psalmiste. Ta voix est dans la mer et tes sentiers sont dans les grandes eaux et les traces ne sont pas connues. Psaume 77, verset 19. Psaume 77, verset 19. Relisez-le en rentrant. Toutefois, à la fin, quand nous serons amenés dans la pure lumière de sa présence, nos yeux verront face à face celui qui nous a conduits comme un berger mène son troupeau. Nous comprendrons alors que ses voix, si souvent mystérieuses, étaient toujours en harmonie avec sa gloire et ses conseils. Nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous n'aurons que des sujets de bénir l'Éternel. L'évangile de Jean, chapitre 12 et au verset 52, dit qu'un jour, Dieu rassemblera en un les enfants de Dieu dispersés. Alors, mes amis, ces quelques versets du prophète ont inspiré ce message pour nous encourager. Non pas nous encourager pour dire à ceux et celles qui passent par les épreuves, par les attaques, par tout un tas de choses, Dieu vous aime. Il va s'occuper de vous. Si Dieu les aime, il a donné aussi un peuple pour que nous aimions ceux qui passent par l'épreuve, pour que nous les soutenions. Mais la conclusion ce matin, c'est « Entrons sans cesse. » Entrons sans cesse. C'est le psaume 73, verset 17. « Entrons sans cesse dans le sanctuaire de Dieu pour comprendre ses pensées, ses voies envers nous, et nous connaîtrons la fin du Seigneur. » Savoir que le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde, selon l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 11. Que Dieu, une fois encore, des sujets de prière, on en a chaque semaine. Des sujets de louange, on en a chaque semaine. Mais la lutte n'est pas finie, mes amis. Nous sommes encore sur cette terre, nous sommes encore perfectibles, imparfaits. Mais à la fin, Dieu sera là et nos yeux verront. Alors j'espère que ce petit message sur le prophète Malachie, qui ne résume pas toute l'étendue du prophète Malachie, j'en ai bien conscience, nous veut de pouvoir tenir ferme ensemble, dans l'épreuve, dans l'adversité, pour aller chercher ce que Dieu nous a mis en réserve. Amen.